Eh bien, bonsoir. Nous allons commencer cette fin d'après-midi dans les salons Mola en accueillant Bernard Vouilloux. Bernard Vouilloux qui vient nous voir pour présenter ce livre qui est un catalogue consacré à Zhao Vouquet et Henri Michaux, plus particulièrement aux relations entre Henri Michaux et Zhao Vouquet. Alors, ce catalogue est le résultat d'une exposition qui a été envisagée, programmée par Bernard Vouilloux durant, j'imagine, plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Et c'est un très très beau livre, un livre qui, à mes yeux, va faire référence sur cette relation très étroite, finalement, entre un poète, un écrivain, mais également un artiste plasticien, et Zhao Vouquet, qui est un artiste très célèbre, hein, qui vient de Chine, qui va quitter la Chine de Mao en 1949, enfin, on va rentrer tout à l'heure plus précisément dans les détails, qui va venir en France, et donc il y a une rencontre qui va se faire entre Henri Michaux et Zhao Vouquet, et qui va donner lieu à des productions plastiques et à des productions artistiques, hein, tout à fait passionnantes et tout à fait, comment dirais-je, exemplaires de la relation entre peinture et poésie. Or, il se trouve que Bernard Vouilloux est certainement, en tout cas à mes yeux, hein, le meilleur herméneute de l'ut pictura poésis. Ces relations entre la peinture et la littérature et la poésie, ou entre les arts plastiques en général, la musique et la littérature, est analysée par Bernard Vouilloux depuis un certain nombre d'années. Hein. Nous nous connaissons depuis longtemps, à travers plusieurs livres, hein, tout à fait intéressants, tout à fait passionnants. Voilà. Alors, en un premier temps, on va demander à Bernard Vouilloux de nous présenter peut-être l'exposition dont il a été le curateur principal, une exposition qui s'est tenue à la fondation Martin Bodmer de Genève, hein, une exposition qui est toujours en cours, hein, Bernard.
Jusqu'au 10 avril.
Jusqu'au 10 avril. Donc peut-être que tu vas nous présenter l'exposition, hein, qu'on ne peut pas voir ici, le catalogue, et après on rentrera dans des points plus précis de cette exposition et de ce catalogue.
Bien, eh bien, merci. Merci beaucoup Bernard. Je veux remercier également la librairie Mola pour son invitation et Céline pour l'organisation de cette rencontre. Et bien entendu, toi Bernard, pour avoir accepté de présenter ce livre. Alors oui, le projet d'exposition remonte à la fin 2013, très exactement. Il était question au départ simplement d'une exposition du fonds Henri Michaux détenu par la fondation Martin Bodmer, qui est une fondation spécialisée dans les manuscrits et les livres, et dont la vocation est de valoriser ce fonds à travers des expositions. Jamais la fondation n'avait conçu d'exposition dans lesquelles des œuvres sur papier ou sur toile viendraient en aussi grand nombre investir le musée. Et cela pour une raison bien simple, hein, c'est que la configuration des lieux, il est vrai, ne s'y prête guère. Bon. Et puis, chemin faisant, l'idée est venue parce que l'ayant droit de Zhao Vouquet vit en Suisse et qu'elle est voisine de la fondation, d'associer à Michaux Zhao Vouquet. Et évidemment, il y avait plusieurs arguments qui motivaient ce choix, et en particulier la relation non seulement humaine, mais artistique, étroite, qui a uni les deux hommes pendant 35 ans. Alors je rappelle quelques dates. Zhao Vouquet arrive en France en avril 1948, très exactement, il est le 1er avril, le signe du poisson, et le poisson joue un rôle très important dans l'amitié des deux hommes. Il arrive le 1er avril à Paris, et l'après-midi même, première chose qu'il fait, il se précipite au Louvre pour assouvir sa faim. Il lui faudra plusieurs mois pour venir justement au terme de cette boulimie, assouvir sa faim de peinture. hein, de la peinture à l'huile, de la peinture occidentale, de la peinture qu'il a, à laquelle il s'est initié à l'école d'art d'Hangzhou, où il est entré en 1935 à l'âge de 16 ans. Et c'est fin 1949, dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons peut-être, qu'il fait la connaissance d'Henri Michaux. En fait, cette relation s'est nouée d'abord à travers les lithographies de Zaouki que Michaux a eues sous les yeux. Et Michaux a été tellement séduit par ce qu'il a vu que, de sa propre initiative, il a écrit 8 poèmes sur ces 8 lithographies qu'il a fait précéder d'un texte. Et c'est cet ensemble qui sera publié au printemps de l'année suivante, en 1950. Et dès lors, les deux hommes ne cessent de s'écrire, de se recevoir, de se voir au domaine musical. Ils sont parmi les premiers abonnés du domaine musical. Et cette relation donc va perdurer jusqu'à la mort de Michaux en octobre 1984. Donc, en entrant, si vous voulez, dans le sujet, je me suis aperçu d'une part qu'il n'y avait pas eu jusqu'alors ni d'articles, ni d'ouvrages, ni d'expositions importantes portant sur cette relation. On peut mentionner 3 expositions. Hein. La première, qui a réuni les deux artistes de leur vivant à l'Institut français d'Athènes, hein, au printemps 1980, avec chacun une dizaine d'encre pour Michaux, une dizaine de lavis pour Zaouki. Bien. Première et seule exposition qui réunit les deux artistes de leur vivant. Et puis ensuite, 2 autres expositions dans des galeries parisiennes. L'une à la galerie Tessa-Hérold, qui a souvent exposé individuellement, séparément, l'un ou l'autre des deux artistes, et puis l'autre, plus récente, à la galerie Kamel Menour. Mais ces expositions de galeries se sont toujours faites à partir des œuvres qui étaient dans leur fond, quelques œuvres qu'elles pouvaient emprunter, mais en aucune façon, elles n'affichaient une ambition comparable à celle qui nous a mus à la Fondation Bodmer, puisque j'ai réuni une bonne centaine de pièces, lettres, cartes postales, livres, mais aussi œuvres sur papier et huiles sur toile. Voilà, alors, malheureusement, l'exiguïté de l'espace des expositions temporaires a fait que nous n'avons pas pu exposer toutes les œuvres que j'avais commandées, mais la sélection s'est faite malgré tout sur des critères objectifs, et non pas seulement en fonction de critères purement esthétiques, c'est-à-dire l'intérêt documentaire, historique des pièces retenues a prévalu sur toute autre considération. Et avec les scénographes, qui a fait un admirable travail, nous avons su concilier les deux impératifs, en quelque sorte, l'impératif scientifique et l'impératif de lisibilité et de visibilité des œuvres. Donc, si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller voir cette exposition qui se tient dans les environs de Genève, hein, à Cologny. C'est au bord du lac Léman, c'est un lieu tout à fait remarquable, à la fois par sa situation, une vieille demeure bourgeoise surplombant le Léman, et par l'étendue de ses collections. Et l'exposition est visible là-bas jusqu'au 10 avril. Alors, le livre, je l'ai conçu comme un objet tout à fait différent. C'est un vœu dont j'ai fait part aussi bien au directeur de la Fondation qu'à l'éditeur, Flammarion, et j'ai été suivi. Mon désir était que le livre pût survivre en quelque sorte à l'événement de l'exposition et constituer, jusqu'à la prochaine échéance, hein, une référence en la matière. Je l'ai conçu comme un peu un jeu de poupée gigogne. Il y a un texte vecteur dont j'ai assuré la rédaction qui couvre la totalité du parcours. Et j'ai demandé à deux contributeurs d'apporter leur éclairage sur des points précis. À Yolène Escande, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et sinologue, grande spécialiste de la peinture et de la calligraphie chinoise. Elle a donc apporté son éclairage sinologique, qui est un éclairage puissant, sur le rapport des deux artistes à la culture lettrée de la Chine classique. Et par ailleurs, j'ai demandé à Laurence Madeline, qui est directrice du pôle Beaux-Arts au musée d'art et d'histoire de Genève, traiter de l'entrée de Zhao Qi dans l'abstraction au milieu des années 1950. Par ailleurs, nous avons obtenu un entretien avec Michel Butor, qui a longtemps enseigné la littérature française, peut-être ne le savez-vous pas, à l'université de Genève, et qui se trouve avoir rencontré en deux occasions Henri Michaud. Il parle de ces rencontres. Et il apporte un éclairage complémentaire, puisqu'il se focalise sur le rapport de Michaud aux drogues, à la mescaline en particulier. Volé que j'ai exclu de l'exposition pour une raison bien simple, c'est que Zhao Qi n'a pas donné dans les drogues, si vous voulez. Et que là, avec les écrits mescaliniens et avec la production plastique mescalinienne, on entre dans un tout autre domaine qui nous éloignait par trop de l'axe Michaud-Zhao Qi. Et puis, tous les textes de Michaud sur Zhao Qi, quatre au total, qui font que Zhao Qi est, de tous les peintres, vivants ou morts, celui sur lequel Michaud aura le plus écrit. Tous ces textes ont été reproduits dans leur format d'origine, et en particulier la magnifique édition bibliophilique, 92 exemplaires, de lecture par Henri Michaud de 8 lithographies de Zhao Qi, qui est l'ouvrage par lequel tout commence, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et puis, il y a un ensemble d'annexes, notamment une chronologie croisée qui permet de balayer des dates importantes de cette histoire. Une notice sur les envois autographes de livres de Michaud à Zhao Qi. Une notice sur la correspondance échangée. Correspondance de la lecture de laquelle il ne faut pas attendre de révélations bouleversantes. Ce sont simplement confirmations de rendez-vous ou des signes d'amitié qu'il s'adresse lorsqu'il voyage, car tous deux sont de grands voyageurs et le resteront très longtemps. Et puis, bien entendu, une liste de toutes les œuvres exposées. Voilà donc ce que l'on trouve dans ce livre, qui fonctionne non seulement comme un miroir de l'exposition, mais aussi comme une sorte de complément, puisqu'il met à la portée des lecteurs un certain nombre d'œuvres qui ne pouvaient être vues à la Fondation Martin Bodmer, en particulier pour leur format. Je pense à l'immense triptyque qui est le troisième des hommages à Michaud Zhao Qi, qui se trouve dans une collection particulière à Taïwan, une œuvre qui doit faire 6 mètres de long. Pour toutes sortes de raisons, il était impensable de la faire venir. Voilà donc pour ce qu'il en est de ces deux objets.
Oui, quand j'ai lu ce livre, qui m'a beaucoup, beaucoup plu, j'étais très intéressé par le début d'une rencontre, parce que c'est une amitié qui va se tisser au fil des années. Alors pourquoi Michaud, qui bien sûr s'intéresse à la Chine, pourquoi il rencontre Zhao Wuqi, comment ils se rencontrent, comment ils s'intéressent l'un à l'autre, quel est le creuset en quelque sorte de cette relation. Alors, il y a beaucoup d'articles hein, dans ce catalogue, enfin, vous en parlez, mais peut-être que tu pourrais donner.
Oui.
Pourquoi ça se lit comme ça?
Alors, comme tant dans toute, enfin, comme dans beaucoup d'histoires d'amitié, il y a un go-between. Hein, l'intermédiaire, en l'occurrence, c'est l'un des éditeurs de Michaud, Robert Jean Godet, qui publiera, du reste, la fameuse lecture de 1950, avec l'aide d'un mécène chinois. Un playboy qui vit à Paris, qui ne sait que faire de son argent et qui va financer cette édition bibliophilique absolument superbe. Bon. Alors, comment les choses se passent-elles? Eh bien, un jour, Godet passe à l'atelier d'Étienne Desjobert, qui est imprimeur, lithographe, imprimeur d'estampes à Paris. Desjobert, chez qui Zhao Wuqi a été convaincu par ses nombreux amis peintres, critiques, d'aller faire un tour pour s'initier à cet art qui n'a pas d'équivalent en Chine, qu'est la lithographie, la gravure sur pierre. Et le jeune Wuqi, donc, qui a, je le rappelle, hein, 29-30 ans, qui parle à peine français à ce moment-là, arrive à l'atelier et fait comprendre qu'il veut apprendre la lithographie. Alors, Desjobert le regarde faire avec quelque effarement parce que Zhao Wuqi mouille très abondamment la pierre lithographique et... Desjobert a le sentiment que Zhao Wuqi confond la technique du lavis avec celle de la lithographie. Et il le met en garde sur le résultat qu'il risque d'obtenir. Sauf que, à sa grande surprise, Desjobert constate que les œuvres obtenues par Zhao Wuqi sont d'une beauté stupéfiante. Et Robert-Jean Godet, donc, l'éditeur qui passait par l'atelier, est séduit et demande de les emporter pour pouvoir les montrer à Michaud. Il ne les montre pas tout de suite à Michaud, lui en parle, et il demande à Michaud s'il souhaite voir les œuvres de ce jeune peintre chinois arrivé à Paris. Et Michaud ne fait pas preuve d'un empressement excessif, et on comprend à travers, parce que nous n'avons qu'un seul témoignage hein, des débuts de cette amitié, c'est celui de Zhao Wuqi dans son autoportrait qui a été publié en 1988 et qui repose sur des conversations avec sa troisième épouse, Françoise Marquet. Bon. On comprend donc à travers le récit qu'en fait Zhao Wuqi que Michaud fait preuve d'une certaine méfiance à l'égard de ces artistes chinois qui travaillent à Paris et qui s'en doutent, parce qu'il y a très certainement beaucoup de précédents, qui s'en doutent font des chinoiseries, hein, c'est-à-dire peignent à la chinoise dans le goût occidental pour plaire et complaire à un certain public friand d'exotisme facile. Et Godet insiste tant et si bien que Michaud accepte tout de même de jeter un coup d'œil sur ses lithographies qu'il conserve chez lui, et c'est là que il décide d'écrire sur elle. Et il faut souligner que c'est la première fois que Michaud écrit ainsi sur les peintures d'un autre. Il a écrit sur ses propres œuvres. C'est assez compliqué d'ailleurs, parce qu'il y a des descriptions en bonne et due forme, telles que celles que l'on trouve dans Peinture, qui a été publiée chez Guy Lévis-Manot en 1939 et qui fait suite à deux expositions en 1937 et 1938, qui sont les deux premières expositions d'œuvres de Michaud. Et puis il y a des crypto-descriptions, c'est-à-dire qu'il y a dans des textes de Michaud, antérieurs à l'époque où nous nous plaçons, hein, la fin des années 40, il y a des crypto-descriptions, c'est-à-dire des textes que l'on peut lire comme des poèmes, mais derrière lesquels on peut peut-être soupçonner la présence d'œuvres de dessins, de peintures, de gouaches exécutées, réalisées par Michaud lui-même. Bon, bref, c'est la première fois qu'il écrit sur la production d'un autre peintre. Et il le fait dans la forme du poème, dans une forme qui n'est pas la forme de la prose critique, comme on la verra se déployer dans les trois textes suivants, mais qui est celle de l'évocation. Hein. Alors, on a parlé d'ekphrasis, oui, cette vieille pratique de la Grèce antique, hein, qui a trouvé des prolongements dans l'Europe des temps modernes, notamment à la Renaissance. Mais enfin, je trouve que la référence à l'ekphrasis risque de brouiller un peu nos pistes, car il n'y a rien de plus éloigné de Michaud que l'horizon gréco-latin. Hein. Ce n'est vraiment pas son horizon culturel, son horizon mental. Bref, nous avons là des descriptions. Et les deux hommes, tout naturellement, vont se rencontrer ensuite. Et alors, il faut imaginer, d'un côté, un Zaouki qui a vaguement entendu parler de Michaud, qui sait que c'est un poète, qui connaît à peine le Michaud peintre, mais il est vrai que à cette époque-là, seul un public averti, hein, connaissait ce versant de l'œuvre de Michaud. Et puis, de l'autre côté, Michaud, tout acquis à la Chine depuis 1932, depuis son voyage en Asie, hein, qui l'a emmené en Inde, qui l'a emmené en Chine, au Japon, en Indonésie, voyage d'où il a rapporté ce livre absolument merveilleux, Un barbare en Asie. Et Michaud est séduit par l'homme comme il a été séduit par sa peinture, et c'est ainsi que débute leur amitié.
Oui, peut-être qu'on n'a pas rappelé qu'il y a 21 ans de différence entre les deux.
Il y a 21 ans de différence. Donc, Michaud est né en 1899, hein, et Zaouki en 1920.
Voilà. Donc on peut imaginer qu'au début, Michaud joue un petit peu le rôle d'une caution, peut-être mm-hmm. intellectuelle. Comme un critique.
En tous les cas, en écrivant sur, sur Zaouki, il lui fait un cadeau merveilleux. Voilà. Il lui fait un cadeau merveilleux parce que Zaouki, en 1950, n'a eu jusqu'alors à Paris qu'une seule exposition. Il commence tout juste. Et Michaud va convaincre Pierre Leube, grand galeriste, hein, qui joue un rôle important dans toute cette histoire, et qui est celui qui a organisé la deuxième exposition de Michaud, celle de 1938, donc à la Galerie Pierre. Michaud convainc Pierre Leube d'aller voir le travail de Zaouki, et Zaouki passera sous contrat de Pierre Leube, ce qui lui permettra, alors Leube, comment dire, représente des artistes comme Viera da Silva, comme Soulages, comme Georges Mathieu, mais c'est surtout avec Viera da Silva et Soulages que Zaouki nourra les relations les plus étroites. Donc, on peut dire que Michaud contribue très grandement la notoriété, hein, au lancement de la carrière de Zaouki. Alors, j'ai parlé de la Galerie Pierre. Oui, je veux y revenir parce que il se trouve que c'est à la Galerie Pierre qu'a eu lieu la première exposition en France d'œuvres de Paul Klee en 1925. Hein. Michaud a dit à plusieurs reprises le choc qu'avait constitué pour lui la rencontre avec les œuvres de Klee, de Giorgio de Chirico et de Max Ernst. Hein, ce sont les trois peintres qu'il nomme. Mais celui qui ressort comme la référence majeure, c'est Klee. Et bon, il y a effectivement, si on approfondit un peu l'étude, hein, un air de famille, je dirais, ne serait-ce déjà que dans le désir d'expérimentation. Vous savez que Klee travaille beaucoup sur des supports multiples, souvent très fragiles. Il utilise des gaz, des papiers de soie. Il utilise beaucoup l'aquarelle et la gouache. Et on trouve le même type de médium dans l'œuvre de Michaud. Mais c'est surtout, comme il le dira dans « Aventure de ligne », un texte qu'il écrit pour servir de préface au livre de Will Grohmann sur Klee en 1954. C'est surtout par la ligne que Michaud vient à l'œuvre de Klee. Or, l'œuvre de Klee joue aussi, si vous me passez le mauvais jeu de mots, un rôle clé dans la maturation de Zaouki, puisque Zaouki, dès 1945, alors qu'il est à Shanghai, a dans sa bibliothèque un livre de reproduction de Paul Klee. Et il dit combien la fraîcheur quasi enfantine de cet art a été pour lui un émerveillement. Et là encore, hein, on peut déceler dans les œuvres qui sont produites dans la suite des parentés, des similitudes, des partages, hein, indéniablement. Et puis il y aura la grande rencontre de l'été 1951 où, à l'occasion d'un séjour en Suisse, Zaouki voit pour la première fois les œuvres originales, hein, de Klee à Berne.
Ce qui fait qu'on voit bien qu'au début, Zaouki doit beaucoup à Michaud. C'est Michaud qui le lance, qui le fait exposer, qui le fait découvrir. Un petit peu comme faisaient les critiques, hein, depuis Diderot, Baudelaire. Oui. Il y a toute une tradition de critiques qui mettent en avant, qui découvrent, hein, qui sont comme des découvreurs d'artistes. Mais on peut dire que par la suite, Zaouki lui a bien rendu, en quelque sorte, parce que leur relation va passer par des échanges d'œuvres. Alors, peut-être que tu pourrais parler de pourquoi certaines œuvres, plutôt que d'autres, vont être échangées entre Zaouki et...
Alors, effectivement, parmi les nombreux signes de cette amitié humaine et artistique, il y a les œuvres qu'ils se donnent, oui, qu'ils s'entredonnent. Quatre œuvres de Zaouki, ont été et qui sont toujours conservés par l'ayant droit de Michaud, hein, qui était dans la collection personnelle d'Henri Michaud, et 10 œuvres de Michaud qui étaient conservées jusqu'à l'année dernière par l'ayant droit de Zaouki et qui ont été données au musée d'Issoudun. Alors, je vais vous donner un exemple de ces échanges. Alors, c'était, il y avait Max Ernst, Giorgio de Chirico, et puis Paul Klee.
Klee.
Vous avez une aquarelle sur papier de Michaud qui date de 1948. Alors 1948, c'est une année triste pour Michaud. Il perd en février sa femme des suites d'atroces brûlures. Hein, elle a été brûlée vive dans son appartement chez elle. On pense que donc sa robe de chambre a pris feu. Bon, par suite d'un incident domestique. C'est un véritable déchirement pour Michaud, qui ne trouve aucun apaisement dans l'écriture, mais qui va se jeter à corps perdu, comme il ne l'avait jamais fait jusqu'alors, dans la peinture, très exactement dans l'aquarelle. Ah, il raconte, en particulier dans Émergence Résurgence, qui est son autobiographie de peintre, publiée en 1972, comment, rentrant un soir accablé de l'hôpital, il ouvre un carton de dessins pour regarder des reproductions, des gravures qu'il a là. Et puis, il feuillette, il tombe sur un lot de feuilles blanches. Il prend les couleurs qu'il a sous la main et pendant des semaines, des mois, il va enchaîner de manière fiévreuse et dans un état de quasi-hallucination les aquarelles. Alors l'aquarelle est un médium qui lui convient parfaitement parce que l'aquarelle est fluide, hein. Donc elle assure une très grande vitesse d'exécution. Le temps de séchage est minimal par rapport à l'huile, bien entendu. Et puis, deuxième propriété importante, c'est que l'aquarelle, lorsque la teneur en eau est relativement élevée, permet des effets de diffusion des pigments sur le papier, des effets qui ne sont jamais prévisibles. D'où cette apparence un peu brumeuse, vaporeuse, hein, quasi oratique de beaucoup de ces aquarelles, qui, par le fait, maintiennent les figures, si on peut les nommer ainsi, entre apparition et disparition. Et de toutes les figures chez Michaud, quand il est possible d'en déceler, on peut dire qu'elles se maintiennent dans cette oscillation. Et que Michaud y parvient à travers différentes techniques. Non seulement donc, l'aquarelle, avec cet effet d'imbibation, hein, la forme semble s'évaporer, mais elle pourrait être aussi saisie dans son état incoatif naissant, mais aussi à travers une autre technique, celle de la gouache sur papier canson noir. Ce sont les gouaches de 37-38, avec notamment des visages, des têtes de cauchemar, qui là encore semblent émerger de la nuit du papier ou bien sur le point d'y retourner. Et une autre technique aussi, qui est celle du frottage, qu'il pratique à grande échelle dans un recueil comme Meidosem en 1948. Exactement, le frottage, vous savez, qui consiste à appliquer le support, la feuille de papier, sur une base rugueuse de bois ou de pierre, et à passer le crayon de sorte, sur le papier, de sorte que la forme apparaît toujours dans ces états quasi fantomatiques, hein, d'évanescence ou d'apparition. Donc voilà l'une des œuvres, elle date de 1948, je répète, que Michaud va donner plus tard, quelques années plus tard, à Zaouk. Et je voudrais m'attarder justement sur le fait que Michaud, sans doute dans les premiers temps de leur rencontre, parce que nous n'avons pas les dates d'entrée des œuvres de Zaouki dans la collection de Michaud, mais je voudrais insister sur le fait qu'il donne cette œuvre à Zaouki alors qu'elle est antérieure à leur rencontre. Zaouki avait bien compris que Michaud était un grand poète. Les nombreux livres que Michaud a donnés dans les premiers temps de leur rencontre à Zaouki, et ce que Zaouki a pu entendre dire ici et là, l'ont assuré que Michaud n'était pas le premier venu. Mais le peintre, je vous l'ai dit, le peintre ne sera pleinement reconnu comme tel, et non pas comme un poète pratiquant la peinture comme un violon dingre, qu'à la toute fin des années 50, lorsque Michaud passera sous contrat de Daniel Cordier, hein, l'un des très très grands galeristes de l'après-guerre. Il faut le rappeler. Et c'est Daniel Cordier qui organise à Paris et en Allemagne, à Francfort, mais aussi aide à organiser en Suisse, à Zurich, des expositions qui font reconnaître Michaud comme peintre. Et pourquoi ? Parce que les œuvres exposées, ce sont les grandes encres que Michaud a commencé à peindre, à réaliser à partir de 1954, sur grand format, hein, comme l'indique leur titre, et des œuvres qui n'ont pas pour vocation d'être reproduites dans des livres, contrairement à toutes les autres œuvres que Michaud avait réalisées jusqu'alors. Et le monde de l'art, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, hein, il y a un public allemand très très averti et très connaisseur de l'œuvre de Michaud, prend à ce moment-là conscience, hein, de l'ampleur de cette production. C'est au point que Francis Bacon, hein, déclarera qu'il trouve que Michaud est allé plus loin dans ses grandes encres que Pollock avec ses drippings. Bacon, donc, trouve que les voies ouvertes par Michaud dans cette série d'œuvres, hein, sont des voies plus fécondes et plus inventives que celles de Pollock, c'est vous dire. Bien, alors, voilà donc pour l'œuvre de Michaud. Et maintenant, nous allons nous transporter près de 40 ans plus tard, Zaouki, donc, qui est à l'occasion d'une édition bibliophilique qui sera publiée par les bibliophiles de l'Automobile Club de France en 1996, avec deux poèmes, dont un inédit de Michaud, sous le titre « Annonciation et moments ». Zaouki a accompagné ce livre d'une série d'eaux fortes, et parmi ces eaux fortes, il y en a une qui reprend, en la transposant, hein, dans le langage de la lithographie, l'aquarelle de 1948. Alors, c'est un exemple, hein, voilà, du devenir posthume, en quelque sorte, d'une œuvre de Michaud que celui-ci a donné à Zaouki. Et la légende est tout simplement d'après Henri Michaud. Alors, elle a été réalisée en 1994 pour un livre publié en 1996. Et Michaud est mort en 1984. C'est un monument bibliophilique qui vient en quelque sorte clore le cycle ouvert par lecture. Hein. Ce sont deux très très beaux, très, très, très beaux livres, tirage limité, 130 exemplaires pour Annonciation et Moment. Et ce qui est très beau, c'est que les deux poèmes, Annonciation et Moment, sont dédiés par Michaud à Kim Chi, qui est le prénom vietnamien transposé dans le prénom français Micheline Phan Kim, que Michaud a rencontré au début des années 60, qui a été une rencontre qui a véritablement illuminé, hein, le dernier quart de son existence. Et à travers ce livre, Annonciation et Moment, sont célébrés à la fois Micheline Phan Kim par ces deux très beaux poèmes, et l'amitié et la connivence, hein, profonde qui unissait Michaud et Zaouki.
Peut-être un dernier point à préciser, c'est que Zaouki a donné à certaines de ses œuvres des passages ou des titres de recueil de Michaud.
Oui.
Et pourquoi et lesquels?
Effectivement, il y en a trois. Hein, exactement. Alors, seuls deux avaient été repérés par les critiques. Il y a La nuit remue, avec le sous-titre Colère. Il y a Vent et poussière, qui date de 1957. Alors que le recueil Vent et poussière a été publié plusieurs années plus tard, mais il y avait eu une publication en revue d'une série de poèmes, Vent et poussière, voilà. Et puis la troisième œuvre, c'est Nous deux encore, que Zaouki peint après la mort de sa deuxième épouse, May, dont la santé était très fragile. Je parlais de la troisième épouse, Françoise Marquet, hein, qu'il a épousée en 1977. Il y a eu donc avant May que Zaouki a rencontré après un séjour aux États-Unis en 1957 lors d'un séjour à Hong Kong. Ravissante comédienne, mais qui avait des problèmes de santé et qui souffrait aussi de neurasthénie. Et c'est l'état de santé toujours très problématique de May qui va en quelque sorte assombrir l'univers de Clé de Zaouki dans les années 60. Il perd donc sa deuxième femme en 1972 et en hommage, il y a beaucoup d'hommages dans l'œuvre de Zaouki, en hommage, il peint un grand tableau qu'il intitule « Nous deux encore », c'est-à-dire du titre même choisi par Michaud pour un texte absolument déchirant que Michaud a laissé publier en 1948, quelques semaines après la mort de Marie-Louise, dans les circonstances que j'ai dites, hein, des suites d'un incendie domestique. Je dis bien que Michaud a laissé publier, car il a regretté assez rapidement son acte, et il s'est empressé de faire toutes les librairies de Saint-Germain-des-Prés et du Quartier Latin pour faire main basse sur les exemplaires qui n'avaient pas été vendus et les retirer de la vente. Et il n'a jamais autorisé ensuite la publication de ces textes, hein, qui sont des textes véritablement d'une teneur déchirante, hein, si l'on songe combien était grande la pudeur de Michaud, comme celle d'ailleurs de Zaouki. Voilà donc les trois titres que Zaouki est allé prendre dans l'œuvre de Michaud. Et il faut ajouter à cela les trois hommages à Michaud. L'un de 1963 qui se trouve dans la collection de Michaud, donc chez son ayant droit actuel. Voilà cet hommage de 1963, et sur un fond sombre, un fond tourmenté, comme on en trouve de plus en plus dans la peinture de Zaouki à partir de cette date. François Cheng a décrit la manière dont Zaouki vient extérioriser dans sa peinture les sentiments qu'il agite à partir de l'image du sismographe. Or, il se trouve que cette image de sismographe a été aussi proposée, notamment par Butor, pour Henri Michaud. Donc, c'est de manière sismographique, en quelque sorte, que Zaouki va faire passer dans sa peinture ses tourments. Alors, vous avez là, sous les yeux, le premier hommage à Michaud. Il y en a un deuxième de l'année suivante qui est assez proche. Et puis, le troisième, c'est celui qui se trouve donc dans une collection privée à Taïwan, un immense triptyque. Des signes supplémentaires, en quelque sorte, hein, de connivence entre les deux hommes, entre les deux artistes.
Eh bien, Bernard, je pense que maintenant, nous pouvons en venir à l'essentiel. À l'essentiel, c'est-à-dire au fond de cette amitié. On voit bien que si Michaud s'intéresse à Zaouki, c'est parce qu'il aime sa peinture et à travers sa peinture, une Weltanschauung, hein, si tu me permets l'expression, c'est-à-dire une conception du monde. Un barbare nazi, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure, est un très beau livre Je pense que Michaud est en quête de cette conception différente du monde. À un moment donné, tu cites dans ton article Gaëtan Picon. Et Gaëtan Picon oppose, hein, tu l'as dit tout à l'heure en quelques mots, oppose au fond la vision occidentale de la peinture, la mimesis, hein, qui capture le réel comme un oiseau de proie. Hein, je pense que c'est sa métaphore.
Absolument.
Au laisser-être des choses.
Voilà.
Et je pense que c'est important que... D'ailleurs, vous le faites très très bien dans ce livre. Hein, il y a des articles tout à fait remarquables sur... cette différence de conception de la peinture occidentale, hein, qui veut capturer le réel, qui veut s'en emparer, un petit peu comme Descartes nous disait d'ailleurs, on veut être maître et possesseur de la nature, avec la peinture chinoise traditionnelle, qui n'est pas celle de la Chine que va quitter Gaëtan, que va quitter Zhao Wuqi, hein, qui est la Chine de Mao. Je pense qu'il faudra en parler également. Parce que la Chine de Mao est une Chine qui est très inspirée d'une philosophie occidentale qui est la philosophie marxiste, qui veut également s'emparer des choses. Je crois que c'est important maintenant d'aller, Bernard, à l'essentiel.
Ah, mais je suis bien d'accord.
Et de mettre en évidence donc, ce fond de la peinture chinoise, à la recherche de laquelle était également Michaud.
Oui. Alors, effectivement, dans « Admirable tremblement du temps », vous avez une dizaine de pages enchantées et enchanteresses de Gaëtan Picon sur ce qui différencie la peinture occidentale et la peinture telle qu'elle est pratiquée dans la Chine classique. Et c'est effectivement le paradigme de la prédation, hein, qui, pour Picon, rend compte du rapport que le peintre a à son modèle. Alors que, dit-il, le laviste chinois ne cherche pas à capturer, à emprisonner, à fixer, mais à laisser être la chose, c'est-à-dire à la laisser dans son temps et sa respiration, car il s'agit pour lui de s'accorder justement avec cette chose. Et ça, c'est quelque chose que Michaud a parfaitement compris et qui apparaît en toute clarté dans son deuxième texte, celui très court, hein, qu'il écrit à l'occasion des expositions de Zhao Wuqi à Londres et à New York en 1952. Et Michaud y reviendra encore dans Trajet Zhao Wuqi, où il prend acte de l'entrée de Zhao Wuqi dans l'abstraction, et il dit « Oui, il est entré dans l'abstraction, mais il n'a pas pour autant quitté le concret. » Et encore, bien évidemment, dans le tout dernier texte, « Jeu d'encre », où il salue retour de Zhao Wuqi aux fondamentaux de sa culture. Parce que finalement, je vous ai dit tout à l'heure la défiance de Michaud à l'égard de tout ce qui pouvait évoquer de quelconque chinoiserie pour amateurs occidentaux friands d'exotisme, c'était également la hantise de Zhao Wuqi. Hein. Zhao Wuqi a voulu s'imposer comme un peintre occidental et il a mis entre parenthèses sa cynité, si l'on peut dire. Hein. Claude Roy, dans la monographie qu'il a consacrée à Zhao Wuqi, constate que c'est en 1962 que paraît pour la première fois un article qui ne fait pas état de la Chine ou de l'origine chinoise de Zhao Wuqi. Ça aurait donc été un long combat pour Zhao Wuqi. Il voulait à tout prix se déprendre, si vous voulez, de cette image du peintre chinois. Il est vrai qu'il y avait des précédents. On peut penser à Fujita, qui n'était pas chinois, mais japonais, et à quelques autres. Il faut rappeler que, par exemple, au musée Tsunami, s'était tenue en 1946 une exposition collective organisée par l'ancien attaché culturel de France en Chine, Vadim Elisev, une exposition de groupe de la jeune peinture chinoise dans laquelle il y avait des œuvres de Zhao Wuqi. Et il est fort possible, c'est une hypothèse que j'ai formulée grâce à Yan Engen, le directeur de la fondation Zhao Wuqi, il est fort possible que Michaud ait vu cette exposition, lui qui était si à l'affût des choses chinoises, et qui n'ait pas été convaincu. Parce que Il trouvait que, décidément, ces peintres passaient trop de compromis avec l'Occident. Alors, Michaud voit dans les lithographies quelque chose qui, bien évidemment, peut rappeler Klee, peut rappeler l'espace moderniste construit par un Matisse, par exemple. Mais il y a aussi, indéniablement, dans l'étagement en verticalité des formes, quelque chose qui peut évoquer les rouleaux de peinture chinoise. Mais c'est surtout en 1952 que ces choses affleurent. Et ce qui est frappant, c'est que, alors que Zhao Qi veut se faire admettre, en quelque sorte, hein, dans le club des grands peintres occidentaux, ceux pour lesquels il n'a que admiration et dévotion, Michaud n'a de cesse, à partir de 1952, de le rapporter à sa culture d'origine. Et on voit Michaud donc convoquer des notions comme celle de vide et de plein, de yin et de yang, comme celle de souffle. Et Michaud a parfaitement compris donc que la peinture de Zhao Qi, loin d'être une peinture qui serait l'expression du moi-je, comme Michaud le dit cruellement en 1954 dans un texte qui s'intitule « Signe » à propos de Georges Mathieu. Hein, Georges Mathieu, pour lequel on a forgé l'expression d'abstraction lyrique. Hein, bien loin d'être une peinture qui ramène au sujet dans ses limites, sa contingence, la peinture de Zhao Qi participe de cette osmose entre le corps et le monde, tous deux étant parcourus par des souffles, car c'est par les souffles qui parcourent les veines du monde, les linéaments en quelque sorte, les ligatures du monde et du corps, que le sujet et le monde peuvent communiquer et en quelque sorte se renverser l'un dans l'autre. Hein, le corps étant lui-même un microcosme et le monde comme un corps amplifié. Ce sont ces passages et cette harmonie, puisque tel est le mot par lequel on traduit la notion chinoise plus ou moins équivalente, ce sont ces aspects-là sur lesquels Michaud met l'accent dès 1952. Et on peut imaginer que dans les nombreuses conversations qu'il avait avec Zhao Qi, conversations qui, d'après les deux veuves, ne portaient pas sur ce qu'ils faisaient, leurs œuvres propres, mais plutôt sur leurs moyens de peintre. Alors, quel papier utilisez-vous? Vous prenez du Chine, du Japon? Est-ce que vous le froissez, etc. Bon, et les pinceaux, vous utilisez des pinceaux ronds, des pinceaux plats, et l'aquarelle, et l'encre de Chine, vous la diluez comment? Bon, enfin, donc, il parlait de ces choses-là qui les passionnaient, tous les deux. Et donc, on peut imaginer Michaud revenant à la charge à plusieurs reprises et disant, mais enfin, cher Wookie, comment se fait-il que vous, avec le passé que vous avez, vous qui avez appris la calligraphie dans votre enfance auprès de votre grand-père lettré, vous n'ayez pas envie de pratiquer le lavis? Et c'est ce qui va se passer au début des années 70, alors que mai deuxième épouse de Zhao Qi est très malade. Là encore, il faut se reporter à l'autobiographie de Zhao Qi, son autoportrait de 1988, hein, pour avoir une idée de la manière dont les choses se sont passées. Zhao Qi n'a plus la sérénité et la patience que réclame le travail sur de très grands formats et le travail à l'huile avec tous les temps de séchage extrêmement longs, et cette extrême concentration que requiert la peinture qu'il fait, à savoir que lorsque vous ajoutez une tache d'outre-mer dans le coin inférieur gauche de la toile, eh bien c'est tout l'équilibre qui risque d'en être bouleversé et qu'il faut anticiper en quelque sorte, hein, les effets d'une tache, la manière dont une tache va répondre sur le tout. Vous avez là, d'ailleurs, une manière d'appréhender le tout de la toile, hein, pour laquelle Zhao Qi était armée à partir donc de la pensée en quelque sorte dans laquelle il avait été élevé, la pensée taoïste, des rapports de force en quelque sorte, hein, la négociation entre des forces et des flux. Et Zhao Qi, donc, qui n'a plus cette sérénité que réclame la peinture à l'huile, et alors qu'il est rongé d'angoisse, tombe un jour dans son atelier sur un vieux paquet de feuilles de papier de Chine, et il lui prend l'envie subitement de barbouiller, c'est le terme qu'il utilise à plusieurs reprises, de barbouiller à l'encre ses feuilles. Et ça va s'enchaîner très rapidement. Le plaisir qu'il avait à barbouiller, comme il le dit, par exemple des porcelaines d'époque Qing ou des pastèques, hein, plaisir tout enfantin qui venait le délasser de ses exercices d'écriture sous la férule de son grand-père, ce plaisir, il le retrouve. Mais il ne peut pas encore l'avouer, sauf à son grand ami Henri Michaux, à qui il montre un jour ses œuvres, et Michaux l'encourage bien évidemment à poursuivre. Et ce sont les magnifiques La vie, reproduits en nombre dans le catalogue, et dont beaucoup sont présents dans l'exposition. Ce sont ces magnifiques La vie donc que Zhao Qi va réaliser pendant une trentaine d'années, laissant d'ailleurs à plusieurs moments l'encre de Chine pour l'aquarelle. Et dans le texte que Michaux écrit en préface au livre de Zhao Qi, tout simplement intitulé « Encre ». La préface, elle, réactualisant une expression qui apparaît dans les vieux traités de peinture chinois, « jeu d'encre ». Dans ce texte, Michaux dit sa satisfaction de voir ainsi Zhao Qi, non pas refaire ce qu'ont fait ses ancêtres, mais se réapproprier en quelque sorte, hein, cette pratique de la peinture à travers toute l'histoire qui aura été la sienne, son histoire de peintre venu de Chine et passé à la peinture à l'huile. Donc avec toute la liberté qu'il a pu acquérir, et qui se retrouve dans ces superbes La vie des années 70 et 80. Donc, jeu du plein et du vide, jeu de force. Et si l'on compare ces La vie avec ceux d'Henri Michaux, on peut faire deux observations. La première, c'est que leur approche de l'encre et du papier est révélatrice en quelque sorte de leur rapport au médium. Il y a chez Zhao Qi une sorte d'imprégnation ou d'imbibation du support par l'encre de Chine. Il joue beaucoup des effets de transparence, des dégradés. Il parle d'ailleurs de cette infinité de gris que l'on obtient entre le noir et le blanc, alors qu'il y a quelque chose d'offensif, voire d'agressif, dans les encres de Michaux. On sent que Michaux est dans un rapport d'affrontement, en quelque sorte, hein, avec le papier qui lui fait face. Et la deuxième observation, c'est que Michaux, qui, comme je vous l'ai dit, a commencé les grandes encres en 1954 et qui en réalise encore dans les années 60, dans les années 70, hein, jusqu'au tout début des années 80, Michaux se trouve ainsi, pour la première fois, contemporain de Zhao Qi. Ou plutôt, devrais-je dire, les deux artistes sont enfin, dans les années 70, mais aussi différentes soit leur voix, synchrone, c'est-à-dire tous les deux déploient le même type de moyens sur le même type de support. Et c'est au point que Michaud réalise en 1977 une encre à laquelle il mêle de l'encre de couleur. Et au verso de la toile, il écrit « Nouveau Zao ». Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Ça témoigne de la connivence qu'il pouvait y avoir entre ces deux hommes.
Oui, alors, une comparaison qui n'apparaît pas, c'est une comparaison avec le dernier Monet, par exemple. Parce qu'on a le sentiment, quand on t'écoute, qu'il y a chez Zaouki et chez Michaud une manière de flirter avec l'art dominant depuis les années 10 et 20, c'est-à-dire l'abstraction. Mais quand même, maintenant, il y a une volonté de mettre en évidence une énergétique, une dynamique qui relie l'homme en tant que microcosme et le cosmos en quête d'harmonie. Mmh. Et on peut imaginer que dans la peinture impressionniste, il y a cette volonté de dissoudre les formes pour mettre en harmonie, en effet, les nymphes avec les nymphéas, avec la nature. Est-ce qu'il n'y a pas une similitude ?
Alors, le rapprochement avec certains impressionnistes, et en particulier Monet, est défendu par Laurence Madeline dans le texte qu'elle a donné pour le catalogue. Il est certain que Zaouki a bu à de nombreuses sources pendant ces années de formation qui se sont étendues entre 1935, date de son entrée à l'école d'art de Hangzhou, et disons le milieu des années 50. Ce n'est véritablement qu'à partir du milieu des années 50 que Zaouki progressivement trouve sa voie. Pour Michaud, c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que Michaud a tout d'abord une attitude de rejet radical à l'égard de la peinture, quelle qu'elle soit. La peinture, si elle doit reproduire les apparences, à quoi cela sert ? Nous avons le monde là sous nos yeux. C'est donc la peinture copie, la peinture reproduction qu'il refuse. Et il dit à propos justement des œuvres de Klee, mais aussi de Quirico et de Max Ernst qu'il voit en 1925, il me montrait ce qu'il était possible de faire avec la peinture. Et ce qui est possible de faire avec la peinture, pour Michaud, c'est tout de même assez différent de ce qui est possible de faire avec la peinture pour Zaouki. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de passages ou de passerelles ou de voies de communication entre les deux. Disons que pour Michaud, vous voyez, ce qui est très frappant, c'est que dans l'œuvre de Zaouki, il y a une période figurative et il y a une période abstraite. Mmh. On peut dater l'entrée de Zaouki dans l'abstraction devant une grande toile de 1954 dans laquelle il substitue pour la première fois au motif figuratif des motifs empruntés en l'occurrence à l'écriture archaïque Han, qui sont illisibles pour un chinois moderne. Et là, c'est l'une des leçons de Klee, puisque dans beaucoup d'œuvres de Klee, il y a justement des lettres, des caractères alphabétiques, et en particulier dans une œuvre que Zaouki a acquise dès le début des années 50, une œuvre de Klee, une petite aquarelle qui est à l'exposition à Cologne, Alte Inschrift, c'est-à-dire vieille ou ancienne inscription. Alors que chez Michaud, ce sont des allers-retours incessants entre figuration et abstraction. Je vous ai parlé de ces figures apparaissantes, disparaissantes. Je pourrais vous parler maintenant des mouvements qu'il peint en 1950-1951 semble évoquer aussi bien les caractères d'une écriture inconnue. Je parlerai alors volontiers de pseudographie, que des silhouettes de gymnastes ou de danseurs, des silhouettes humaines, des silhouettes anthropomorphes en tous les cas, en mouvement. Et là encore, oscillation entre figuration et abstraction. Et cette oscillation, elle se discerne même dans une seule œuvre. Hein, si l'on revient à l'aquarelle de 1948 que je vous ai montrée, cette spirale-là qui est à droite, on doit y voir quoi ? Oui, une forme géométrique pure, ou bien la courbe d'un sein. À gauche, oui, on est tenté de voir une silhouette anthropomorphe en mouvement, mais tout cela est indistinct, semble s'évanouir, se fondre dans la matière du papier, ou bien en émerger. Quand il y a figure, elle est toujours prise dans ses devenirs. Ça, c'est une problématique qui est vraiment propre à Michaud et qui fait sa singularité. Et c'est pourquoi d'ailleurs son œuvre plastique, son œuvre graphique doit être mise en continuité avec son œuvre poétique.
Maintenant, on voit que tu connais admirablement Zaouvouki et Michaud et leur rapport. Alors, moi, j'aimerais que tu précises, Bernard, pourquoi vous avez choisi ce titre, dans l'Empire des Signes ? Parce qu'évidemment, il y a une relation avec une référence à Roland Barthes et au Japon, puis à l'Empire du Milieu aussi. Donc, voilà.
Oui, alors, bien évidemment.
C'est un beau titre.
Oui, l'Empire des Signes. Je n'ai pas voulu, à tout prix, faire référence à Barthes. Je dirais que le titre s'est imposé naturellement. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la Chine étant, du moins cette Chine rêvée par Michaud, cette Chine quittée par Zaouki, cette Chine imaginaire, pourrait-on dire, qui n'est ni la Chine des mandarins, ni la Chine de l'Empire rouge. Cette Chine-là, c'est un peu le lieu idéal dans lequel s'est nouée cette amitié entre Michaud et Zaouki, qui sont des déracinés, d'une certaine manière. Michaud est belge d'origine, il ne s'est jamais senti nulle part chez lui. Il voyage beaucoup. Il se fait équatorien quand il est en Amérique latine. Il se fait asiatique quand il est en Asie, etc. Bon. Et puis, Zaouki quitte la Chine en 1949 et n'y retournera pour la première fois en 1972, après la mort de Mai. Et pour une raison bien simple, c'est que vous le savez, avant que les relations diplomatiques soient rétablies entre la France et la Chine, il va s'écouler entre 49 donc, et 64, une bonne quinzaine d'années, pendant lesquelles Zaouki ne peut pas retourner en Chine. Et ensuite, les communications sont extrêmement difficiles. 64, 65, c'est la révolution culturelle. Et la famille de Zaouki, une famille issue d'une grande dynastie de lettrés dont les origines remontent à la dynastie Song, a particulièrement à souffrir dans la révolution culturelle. Le père de Zaouki, issu de cette lignée de mandarins, était lui-même banquier, il avait certaines fortunes, et évidemment, il fait partie de ces élites qui ont eu à la fois économique et culturelle, qui ont eu à souffrir, comme les autres membres de la famille, de la révolution culturelle. Zaouki et Michaud ont entre eux ce lien chinois. Et Michaud adore interroger Zaouki sur des pratiques, des coutumes, des croyances de la Chine d'aujourd'hui comme de la Chine ancienne. Et les signes, il n'est question que de signes. Il n'est question que de signes chez Michaud d'un bout à l'autre de l'œuvre, même s'il y a une inflexion et que l'on passe du signe-signe, du signe pseudographique, pseudo-notationnel, au signe-geste, au signe-mouvement. Bon. Et Zaouki reconnaît que le signe a été pour lui fondamental dans ces années décisives, entre 1950 et 1956-57, c'est à ce moment-là donc qu'il abandonne complètement les signes dérivés de l'écriture Han pour ne plus avoir affaire en quelque sorte qu'à l'espace, hein, c'est-à-dire au jeu des couleurs sur la surface de la toile. Et voilà donc pourquoi j'en suis venu à associer les deux termes. Il y a quelque chose d'ailleurs d'ironique dans cette reprise, c'est que Barthes parlait, et admirablement d'ailleurs, comme on le sait, du Japon, hein, alors que l'Empire des Signes, dont je parle, c'est cette espèce de, oui, d'empire du milieu, mais un milieu qui serait un milieu imaginaire, hein, cet empire du milieu qu'est la Chine. Et vous savez combien sont profondes, hein, les différences entre les deux cultures et combien sont conflictuelles d'ailleurs les relations entre les deux cultures, les deux pays, les deux peuples.
Et je vous propose d'applaudir et de remercier beaucoup Bernard Bouilly.
Merci. Merci pour votre attention.